السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. On est donc arrivé dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la deuxième grande bataille qui va se dérouler la troisième année de l'Hégire. Plus précisément pendant le mois égirien de Shawwal, le mois qui suit Ramadan. Donc un peu plus d'un an auparavant, il y a eu la bataille de Badr. Et on a vu qu'entre la bataille de Badr et la bataille de Uhud, il s'en est passé des choses. Il y a eu plusieurs expéditions, des tentatives de vengeance de la part des Quraysh, mais on va dire des tentatives de mini-vengeance. Parce qu'ils préparaient dans un coin, dans les coulisses, la grande vengeance qui est celle de Uhud, qui est le sujet à partir d'aujourd'hui. Et on a vu aussi que certaines tribus bédouines qui avaient la main mise sur les routes commerciales, puisqu'ils vivent de ce côté-là, et qui étaient alliées aux Quraysh, ont tenté également, à deux reprises, d'attaquer par surprise Al-Madin Al-Munawwara. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a des informateurs, des éclaireurs à travers le désert, parce qu'il sait qu'il est menacé par les Quraysh d'abord et par d'autres. Ces informateurs, ces éclaireurs lui donnent l'information avant qu'il n'attaque, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours pu les attaquer avant qu'ils ne puissent attaquer. Et finalement, quand ils voient, quand à leur tour leurs informateurs disent votre plan a été découvert et ils arrivent avec une armée, les musulmans, ils fuyaient, ils ne livraient pas bataille. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans, en plus de toutes les expéditions qui ont été menées avant Badr, plus aussi les stratégies d'alliance que le prophète sallam a mis en place avec certaines tribus qui géraient aussi des parties de la route commerciale, comme par exemple les Bani Mudlij, les Bani Juhayna ou les Bani Damra. Toute la période avant Badr, le prophète sallam a fait ses pactes avec eux. Et donc les Quraysh voient tout ça, ils voient que politiquement parlant et stratégiquement parlant, le prophète sallam gagne du terrain. Il est devenu, entre guillemets, un chef d'État. Alors qu'il était marginalisé chez eux, finalement il est devenu un chef d'État respecté avec qui un certain nombre de tribus acceptent de s'allier à lui et de faire des pactes de non-agression. Et en plus de ça, le prophète sallam assoit son autorité parce qu'il montre et il fait dire, il fait entendre, puisqu'il ces innombrables expéditions qui sont menées avant Badr et entre Badr et Uhud, toutes les tribus en parlent. On raconte que les musulmans et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam repoussent à chaque fois toutes les attaques. Tafaqna ? Il n'y a que deux attaques qui ont réussi depuis la révélation. Jusqu'à la bataille de Uhud, hein, il n'y a que deux attaques des Quraysh qui ont réussi. C'est lesquelles ? À chaque fois, ces deux attaques qui sont menées, on va dire, de manière lâche. Alors, on ne sait même pas si on peut dire qu'elles sont réussies parce qu'elles sont menées de manière lâche. C'est-à-dire que la première qui a réussi, c'est lorsque Abu Sufyan, pour faire rompre son serment juste après la bataille de Badr, qu'est-ce qu'il a fait ? La première, ce n'est pas celle-là. La première, c'est celle où, lorsque les musulmans avaient un Nakhla au sud de la Mecque, sur la route commerciale qui mène de la Mecque au Yémen, les musulmans avaient pris possession de la caravane et ils avaient même fait deux prisonniers. Et il y avait même un mort du côté des idolâtres. Et pour se venger, les Quraysh, ils avaient envoyé un homme, Kurz ibn Jabir al-Fihri, qui avait attaqué Médine, et même pas Médine, les enclos à la périphérie de Médine, de nuit, pour ravager les palmiers, achever quelques troupeaux et prendre ce qu'il pouvait parmi en récolte et en bétail. Et ensuite, la deuxième qui a réussi de la même manière, c'est lorsque Abu Sufyan avait besoin, il avait fait son serment après Badr, il a dit devant toute la population, il avait fait rassembler la population de Quraysh pour annoncer un certain nombre de mesures. Après la grande défaite de Badr, il a dit aux Mekwa, parmi les mesures, on va y revenir tout à l'heure, parmi les mesures qu'il a annoncées, c'était, et moi en tant que chef, c'était la tradition chez les Arabes, il fallait que le chef fasse un serment pour montrer que vraiment, il voulait se venger. Il dit, moi en tant que chef, je jure par toutes les divinités que je ne prendrai plus aucune douche de Janaba. Il va continuer à se laver normalement, mais se laver, le lavage qu'on fait après avoir eu des rapports intimes, ça, il dit, je jure que je ne le referai plus. C'était une manière pudique de dire, je ne toucherai plus aux femmes tant qu'on ne s'est pas vengé. Sauf que ça a été dit sous la ferveur. Et finalement, la préparation de la bataille va prendre plus de temps que prévu. La préparation de la vengeance, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, pour réussir à rompre son serment, qu'est-ce qu'il fait ? Il arrive de nuit lui aussi à la bataille de à la ville de Médine. Il est accueilli par Ibn Mishkan, un chef d'une tribu juive de Médine. Il l'accueille et qu'il lui conseille, qu'il le recommande, il lui dit dans la ville de Médine, tout est gardé, tout est surveillé. Ce que tu peux faire à la rigueur, c'est attaquer les enclos, comme la première fois, de nuit. Mais à ce moment-là, depuis la première expérience, évidemment, le professeur Hassan avait mis des gardes, même dans les enclos. Mais il y avait juste deux gardes. Et donc Abu Sufyan, il va exécuter les deux compagnons, radiyallahu anhuma, qui gardent les enclos, et il va fuir. Le professeur Hassan, le lendemain, il va essayer de le pourchasser, mais il ne va pas réussir à le rattraper. C'est la bataille de Sawiq. Non, l'expédition de Sawiq. Ala kulli hal, la toute dernière expédition qui a eu lieu juste avant la bataille de Uhud. Nous, je vous ai dit, la bataille de Uhud va avoir lieu pendant le mois hijrien de Shawwal, de la troisième année. La dernière bataille qui a eu lieu avant ça, c'est celle de Zayd ibn Haritha, radiyallahu anhu. Trois mois auparavant, pendant le mois de Jumada al-Thaniya. Le professeur Hassan avait envoyé, comme on l'avait dit, Zayd ibn Haritha, radiyallahu anhu, à la tête de 450 compagnons, à la tête de 450 combattants, pour intercepter la caravane de Safwan ibn Umayya. On avait expliqué que les Quraysh vivaient principalement du commerce. Toute l'année, ils envoyaient des petites caravanes par-ci, par-là. Le commerce, c'était la chose la plus importante pour eux. Mais ils avaient deux caravanes organisées, deux voyages commerciaux organisés, ce qu'ils appellent, et le Coran le cite, « Rihlatu shita'i wa saif ». Rihla, le voyage de shita, de l'hiver, wa saif, et le voyage d'été. C'était deux grandes caravanes commerciales qui étaient organisées par les Quraysh, où tous les hommes d'affaires, si on peut dire entre guillemets les choses comme ça, les hommes d'affaires s'alliaient, mettaient toutes leurs richesses, ce qu'ils pouvaient vendre. Il y en avait une, dans une des deux saisons, c'était vers le nord, en Syrie actuelle, Cham, et l'autre, c'était au sud, vers le Yémen. Ils envoyaient leur caravane, une grande caravane pendant l'été, une grande caravane en hiver. Et ils allaient vendre là-bas tout ce que eux ils pouvaient produire, ils pouvaient avoir et qu'on ne trouvait pas dans ces pays-là. Et en échange, ils achetaient là-bas. Donc ils avaient déjà fait beaucoup de bénéfices. Ils ramenaient de l'argent, ils ramenaient de l'or, mais ils achetaient aussi une partie de ces bénéfices. C'était aussi pour acheter beaucoup de marchandises et des produits qui se faisaient là-bas et qu'ils n'avaient pas eux, pour vendre tout au long de l'année. C'était sur ça qu'était basé le mode de vie des Quraysh. C'était des commerçants. Sauf que depuis qu'il y a eu la hijra, il est très compliqué d'organiser ces voyages commerciaux. Abu Sufyan va te donner cette tâche, cette année-là, la troisième année. Il va demander à Safwan ibn Umayya, radiyallahu anhu, à cette époque-là, il n'est pas encore musulman, mais il finira par se convertir à l'islam. Il va lui donner la mission d'organiser le voyage commercial vers le nord, vers la Syrie, vers le Chin, avec évidemment comme défi à relever de réussir à passer pas loin de Médine, puisque la route commerciale passe par là, sans que cette grande caravane soit interceptée. Safwan ibn Umayya, il va avoir une idée qui n'était pas une mauvaise idée. C'est qu'il va faire passer la caravane par là où on ne peut pas attendre cette caravane. D'habitude, il passe par les Bani Juhayna. Le professeur Sam a fait des pactes avec eux, etc. Mais eux aussi, ils ont des pactes avec ces Bédouins-là. Donc, les Bani Juhayna, entre guillemets, ils sont neutres. C'est la Suisse. Ils ont un pacte de non-agression avec les Quraysh et ils ont un pacte de non-agression avec les musulmans. Donc, ils ne se mêlent pas, mais en tout cas, ils laissent les Quraysh passer parce qu'ils ont un pacte avec eux. Et si le professeur Sam veut les intercepter, il le laisse faire aussi. Il a libre cours. Comme chez les Bani Damra et comme chez les Bani Moudlige, qui sont aussi des tribus qui ont des pactes aussi avec les Quraysh. Donc c'est des tribus, entre guillemets, le professeur Sam a réussi à gagner leur neutralité. Et il a réussi à gagner sa liberté de circuler dans leur plaine, sans qu'il soit menacé. Donc Safwan ibn Umayya va avoir, entre guillemets, l'idée du siècle, d'une certaine manière, c'est qu'il va dire, je vais faire quelque chose que jamais nos ancêtres ont fait, c'est qu'il va faire passer la caravane à l'ouest de Médine. Par la région de Najd, par le désert, pour la faire arriver en Irak actuel, et ensuite seulement tourner et revenir vers le Chin. Donc un énorme détour qui va faire prendre encore plus de temps au voyage, déjà que le voyage il est très long, mais il ne voit aucune autre solution. Sauf que même ça ne va pas marcher, puisque les informateurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces éclaireurs qu'il envoie dans le désert, lui ramènent cette information et lui disent, il y a les informateurs qui l'envoient dans le désert, mais il n'y a pas que ça. Il ne faut pas oublier qu'il y a des gens, et ça c'est aussi l'erreur capitale et stratégique des Quraysh. Ils agissaient dans tout ce qu'ils faisaient, en tout cas les premières années, à partir de Uhud ça va changer, ils agissaient à chaud. Ils réagissaient à chaud, ils ne réfléchissaient pas aux conséquences. Par exemple, le fait d'interdire formellement l'émigration des gens qui se sont convertis à l'islam, qui voudraient rejoindre leur famille à Médine, ils ont toujours des gens chez eux, des épouses, des maris, des fils, des pères qui aimeraient rejoindre leur famille qui sont musulmans et aussi se sont convertis à l'islam, mais sont ligotés, on les enchaîne, on les surveille pour pas qu'ils fassent la hijra. Sauf que ces gens-là, ils voient, ils entendent tout ce qui se passe et tout ce qui se prépare à Mecca. Donc c'est aussi des gens qui sont potentiellement des gens qui peuvent informer le professeur Asmi de tout ce qui se passe en envoyant des lettres, des messages. Bon, pas par téléphone, évidemment, ça n'existait pas. Des messagers, des voyageurs, ils les payaient pour... Et on sait que, par exemple, l'Abbas ibn Abd al-Muttalib, radiyallahu anhu, l'oncle du professeur Asmi, son islam n'était toujours pas découvert à cette époque-là. Après Badr, les Quraysh ne savaient toujours pas qu'il était musulman, et pourtant il l'était. On sait que c'est lui qui va informer par une lettre secrète l'arrivée de l'armée pour la bataille de Uhud, on va y revenir. Donc, le professeur Sam est informé. Il envoie Zayd ibn Haritha qui intercepte la caravane. Vous imaginez, la caravane, elle est estimée, cette caravane, à 100 000 dinars de l'époque, c'est-à-dire 100 000 pièces d'or. Safwan ibn Umayya, il a pris un certain nombre de cavaliers pour la protéger. Mais d'abord, il s'est dit, premièrement, c'est pratiquement impossible qu'il ils arrivent à nous intercepter parce qu'ils ne vont jamais penser qu'on va passer par là. Ils ne nous attendront pas de ce côté. Et deuxièmement, je l'ai oublié. Naam. Comme le fameux hadith qui est authentique dans la chaîne de transmission, où il y a un premier narrateur qui dit, le professeur Hassan m'a dit, il y a deux choses, celui qui les fait rentre au paradis, j'ai oublié la première, et l'autre narrateur, il dit, moi j'ai oublié la deuxième. Il m'a fait, mais le hadith, il est sahih. En tous les cas, pour cette raison, Zayd ibn Haritha donc va intercepter la caravane, et Safwan ibn Umayya, il n'a pas assez de gens pour la protéger parce qu'il ne s'est pas imaginé qu'ils allaient l'intercepter. Et voilà la deuxième raison, c'est quoi ? Ils sont 450. 450. Ça, c'est pour faire la guerre. Et donc, il les voit arriver, 450, armés. Qu'est-ce qu'il fait, Safwan ibn Umayya ? Sauf qui peut. Et là, son père est mort à Badr. Les grands notables sont morts à Badr. Donc, il a peur, il fuit. Il prend ce qu'il peut, il fuit. Et il laisse derrière lui quelque chose, toutes les marchandises, tout ça, les chamelles, etc., c'est estimé à 100 000 pièces d'or. Évidemment, là, c'est un coup fatal pour l'économie des Quraysh. Que ce soit par la route habituelle, ou même pour faire des détours, ils n'ont plus accès à la route du nord, le commerce du nord. Quant à celui du sud, elle est un peu plus sécurisée pour eux, sauf qu'une fois, pendant l'expédition de Nakhla, le professeur Hassan leur a prouvé qu'il pouvait s'attaquer à ce côté-là, puisqu'il avait envoyé Abdullah ibn Jahsh, radiallahu anh, qui avait fait deux prisonniers et qui finalement s'était même converti à l'islam, alors que les Quraysh avaient négocié cher leur libération. Ils les libèrent, ils font quelques kilomètres dans le désert et ils disent maintenant on revient librement se convertir à l'islam. Bah, rendez l'argent qu'on a payé pour leur libération. Non, ça a été négocié. On les a pas forcés, ils sont partis. Et eux-mêmes, ils ont voulu partir pour montrer on est libéré par les Quraysh et leur rançon. Maintenant qu'on est libéré, on a décidé de revenir librement. Aïwa. Et donc, les Quraysh, là, il faut absolument qu'ils mettent en place la vengeance. Donc la vengeance, elle a déjà été préparée depuis un an. Mais là, ils accélèrent parce que là, c'est plus possible pour eux. Ils sont en train d'étouffer économiquement parlant. Donc, ils vont mettre en place plusieurs choses. On avait déjà parlé de ça, mais il est important de se remettre dans le contexte pour parler de la bataille de Uhud. Premièrement, ils s'organisent. Ce n'est pas comme Badr. Ils ont sonné l'alerte générale quand Damdam ibn Amr al-Ghifari est arrivé sur sa monture en faisant tout un cinéma. Vous vous rappelez quand Abu Sufyan l'avait envoyé, il l'avait payé pour lui dire « Va vite dire que leur caravane est en danger et fais le plus de bruit possible pour effrayer les Mécois afin qu'ils se mobilisent. » Et en quelques jours, ils ont mobilisé 1300 hommes et ils sont partis. Mais ils n'étaient pas entraînés, ils n'ont pas fait de plan. Sur la route, ils se sont divisés. 300 d'entre eux sont revenus. Et là-bas, au moment où ils allaient sonner l'attaque générale, ils se sont disputés. Et finalement, ils se sont réconciliés. Je ne vous rappelle pas comment ils se sont réconciliés. Quand le fils de l'Hadrami, hein, il avait montré son derrière à toute l'armée. Je ne rappelle pas les détails, il revenait vers les audios, yani, et c'est comme ça qu'il les a réconciliés, puisque le fils de l'Hadrami, c'est celui, son frère avait été tué justement à la bataille de Nakhla, au sud de la Mecque, et Abu Jahl l'avait fait dire, puisqu'il y avait Utba ibn Rabi'a qui commençait à se dire finalement, est-ce que vraiment ça vaut le coup de faire la bataille ? Abu Jahl est venu, il a dit, nous faisons cette bataille, ne l'oubliez pas, pour un homme parmi nous qui a été tué. Où est son frère ? Il a ramené son frère, le fils de l'Hadrami, et il lui a dit, Utba est en train de dire aux troupes qu'il n'est pas nécessaire de combattre, alors qu'on est là pour ton frère. Est-ce que tu vas laisser le sang de ton frère, il ne sera pas vengé ? Et tu vas laisser ceux qui ont tué ton frère impuni. Et donc là, il est venu, il est monté sur la monture, Al-Jahiliya. Et il a montré son derrière à toute l'armée en disant « Wa Amra, ô mon Amr !» en parlant de son frère. Son frère qui avait été tué, il s'appelait Amr. « Wa Amra !» Et là, Utba ibn Rabi'a lui-même qui disait « Non !» à la guerre, à l'attaque. Il lui a mis une piqûre. C'était le jahiliya, c'était leur code à eux. Yani. Nous, on ne peut pas comprendre ça. Nous, normalement, quand on voit ça, on va dire, alors là, vraiment, moi, je rentre chez moi. Moi, vraiment, je ne vais pas combattre. Eux, c'est le contraire. Yani. C'est ce qu'on appelle jahiliya. C'est des codes qu'on ne peut pas comprendre. Même s'il y a certains codes de jahiliya qu'on comprend très bien et même qu'on applique à la perfection. Ala kulli hal. Donc, comment ils se préparent cette fois ? Ils s'organisent. Déjà, il faut savoir qu'il y aura 3000 hommes, 3000 combattants. 3000 combattants. Parmi ces 3000 combattants, il y a 1000 personnes de la Mecque, de Quraysh, de la tribu de Quraysh. Un tiers, c'est de la tribu de Quraysh. Vous allez me dire, mais alors la majorité, les deux tiers, ils viennent de qui ? Et c'est là où on voit que cette fois, ils se sont préparés. On va en parler un peu plus tard. C'est qu'il y a 2000 autres combattants, ça, on va en parler plus tard. Mais d'abord, intéressons-nous à ces Quraysh, comment eux, ils se préparent. Pendant toute l'année, ils vont faire des entraînements de combat à la lance. Les Arabes savent manier le combat à l'épée, mais ils n'ont pas l'habitude des lances. Les lances, c'était plutôt un art qui était pratiqué par les gens d'Abyssinie à l'époque. Ils avaient même des jeux, des sortes de jeux qui faisaient avec le tir à la lance. On le voit lorsqu'il y a eu une délégation qui était, on le verra plus tard, Inch'Allah, lorsqu'une délégation abyssinienne, donc d'Éthiopie actuelle, va rendre visite au professeur Asselem, dans la mosquée, il va y avoir ce genre de choses avec. Le Mohim, on en reparlera plus tard, Inch'Allah. Sinon, à chaque fois, on va ouvrir une parenthèse. Dans la parenthèse, on ne va pas finir. Al-Muhim, ils s'entraînent au combat des lances. Ils font appel à des alliés. Ce qui explique en partie les 2000 autres, mais ce n'est pas que ça qui l'explique, et ça, je vais y revenir plus tard, comme je vous l'ai dit. Mais par exemple, ils font appel aux Bani Kinana. Ils font appel aux tribus des Tihama. En leur disant, notre caravane, c'est aussi de ça que dépend votre mode de vie. Et ils ont les mêmes divinités, ils adorent les mêmes divinités. Il y en a toutes les tribus arabes, ils adorent des divinités, mais pas forcément les mêmes. Par contre, avec ces tribus-là, ils sont alliés par les mêmes divinités. Donc ils leur disent, ce sont aussi nos divinités qui sont attaquées, vous avez la responsabilité, le devoir de venir vous joindre à nous. Donc ils vont les mobiliser. Comment ils les mobilisent ? Ils envoient des diplomates, ce qu'on peut appeler des émissaires. Ils avaient parmi eux des notables qui maniaient le verbe et qui savaient comment parler en fonction du chef qu'ils avaient en face d'eux. Est-ce que c'était un bédouin ? Est-ce que c'était de telle tribu ou telle tribu ? Ils savaient comment leur parler pour les convaincre. Et ils envoient ces gens-là. La diplomatie, c'est tout un art aussi. Ils ont envoyé en particulier Amr ibn al-As, radiallahu anhu, puisqu'il se convertira plus tard à l'islam. Et Amr ibn al-As, c'était un émissaire et un diplomate connu chez les Quraysh. Ensuite, ils utilisent aussi les poètes. Ils galvanisent les gens de la Mecque et ils galvanisent les autres tribus à qui ils font appel, comme les Bani Kinana et les Bani Tihama, à travers la poésie. La poésie, elle a une grande importance chez les Arabes, comme on l'a déjà vu plusieurs fois, et en particulier chez les Arabes avant. Yani la poésie, c'est ce qui permet à l'homme, dans toutes les civilisations au final, et en particulier chez les Arabes, de rapprocher l'autre de son shu'ur, de son sentiment. C'est probablement pour ça d'ailleurs que ça s'appelle shi'r. Ça vient de la même racine que shu'ur, le sentiment. Quelqu'un, il a un sentiment, il l'explique aux gens comme ça, il va l'expliquer. Il ressent quelque chose, il va l'expliquer. Taïb. La personne en face va comprendre à peu près ce qu'il veut dire. Mais à travers la poésie, à travers les rythmes, à travers les rimes, à travers les métaphores, il arrive vraiment à faire ressentir à l'autre son sentiment dans un événement. Ça peut être un poème qui est fait pour ce que la personne ressent pour le décès de quelqu'un. Ça peut être un poème qui est fait pour le mariage, ça peut être un poème qui est fait pour le Mohim, pour la guerre. Ici, c'était pour la guerre. Naam. Et donc, ils utilisent les poètes. Parmi les poètes qu'ils vont utiliser, il y a Abu Azza. Si vous vous rappelez d'Abu Azza, Abu Az-Zakiy, c'est celui qui avait été fait prisonnier à Badr, qui avait déjà été utilisé pour son verbe, pour son éloquence, pour sa poésie, par les Quraysh, mais il a été fait prisonnier à Badr. Et il va être un des derniers prisonniers idolâtres à être libéré. Pourquoi ? Parce qu'il n'a personne pour lui payer sa rançon. Il n'a pas une tribu derrière lui pour le soutenir. Et il n'a que des filles en bas âge. Donc il n'y a personne pour lui payer la rançon. Et Abu Azza va dire au prophète sallam, tu vas me laisser prisonnier. Je n'ai rien à t'offrir, je n'ai pas de rançon. Le prophète sallam va lui dire, je veux bien t'offrir ta libération en échange, non pas d'une rançon, mais en échange d'une condition. Il lui dit laquelle ? Il lui dit que plus jamais tu n'utilises ta langue contre nous comme tu l'as fait jusqu'à présent. Yannel utilisait sa langue, sa poésie, ses rimes pour galvaniser, hein, chauffer les idolâtres. Et il va dire d'accord, plus jamais. Le professeur Sommer lui dit attention, c'est un engagement. Si je t'y reprends, je ne serai plus aussi clément qu'aujourd'hui. Il faut se rappeler cette anecdote parce qu'il va être fait prisonnier une deuxième fois après la bataille de Uhud. Safwan ibn Umayya envoie des poètes. Les Quraysh, ils envoient des poètes. Il y a un poète qui est au chômage. C'est Abu Azza, parce que lui, il est attaché par un engagement auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a, Abu Azza ? Donc Safwan ibn Umayya va voir Abu Azza et lui dit, qu'est-ce qui t'arrive ? Tous les poètes sont partis dans les différentes tribus, dans les différentes familles, dans les différents quartiers, pour galvaniser, pour mettre leurs compétences au service de la vengeance. Toi, qu'est-ce que tu fais ? Il dit, moi, j'ai donné un engagement. Et je ne peux pas trahir mon engagement. Il lui dit, tu as peur de quoi ? Si tu romps cet engagement, pour nos ancêtres, pour nos divinités, tu as peur de quoi ? Tu as peur d'être tué dans la bataille ? De mourir ? N'est-ce pas une bonne cause pour laquelle il faudrait mourir ? Et lui dit, non, c'est pas la mort qui me fait peur. Et alors, qu'est-ce qui te retient ? De rompre cet engagement. Il lui dit, la chose qui me retient, c'est mes filles. Si je meurs, ce n'est pas moi le problème. C'est ceux que je laisse derrière moi ou celles que je laisse derrière moi. Et surtout à l'époque, le contexte de l'époque ne donnait aucun droit aux femmes et encore moins aux filles. Que vont devenir mes filles ? Je ne peux pas prendre ce risque. Je l'ai pris une fois, j'ai eu la vie sauve en échange d'un engagement. Il lui dit, eh bien écoute, Safwan ibn Umayya lui dit, écoute, utilise ton verbe pour aller galvaniser les gens et viens avec nous sur le champ de bataille. Et de deux choses l'une, soit on revient tous victorieux et vivants, et toi aussi, et dans ce cas-là, je ferai de toi un homme riche. Tu n'auras plus à t'inquiéter de la pauvreté jusqu'à la fin de ta vie. Et soit tu meurs, je donne mon engagement devant témoins que tes filles n'auront plus à manquer de rien et que je m'occuperai d'elles comme mes propres filles. Si elles manquent de quelque chose, tes filles, c'est que mes filles manqueront de quelque chose. Est-ce que tu es d'accord ? Il dit, si tu t'engages à ça, alors je veux bien. Rompre mon engagement. Il lui a dit, ils ont fait ce contrat oral devant témoins et Abu Azza est reparti utiliser ses rythmes et ses rimes pour chauffer les gens. Et on verra la suite quand il aura été fait prisonnier à la fin de la bataille de Uhud. Un des autres poètes qui est envoyé, c'est Musafir ibn Abdimanat. Musafir ibn Abdimanat, il va être envoyé chez les Bani Kinana. Et pourquoi lui particulièrement est envoyé chez les Bani Kinana et en particulier dans une branche de la tribu des Bani Kinana, les Bani Malik ibn Kinana ? Parce qu'il a un lien de parenté avec eux. Donc ils se disent, son verbe va les galvaniser et en même temps ils vont se dire, il est de chez nous, c'est un cousin. Et donc il va chez eux et parmi les rythmes, les rimes afwan et les vers qu'on retient de lui, que les historiens ont retenu de lui, c'est qu'il va s'adresser à eux en leur disant « Ya mal, mal al-hasab al-muqaddam. أنشدوا ذا القربى وذا التذمم. أو مال. مال en arabe, ça veut dire quoi? Ça veut dire riche, assiette. Mais ici, ce n'est pas ça. Ici, en fait, il s'adresse à eux. C'est les Bani Malik ibn Kinana. Et donc, il fait un diminutif de Malik qu'il appelle Mal. Et ça, on a le droit dans la poésie arabe. Pas quand tu parles arabe normalement. Mais dans la poésie arabe, la dernière lettre, dans certains cas, tu peux la supprimer si elle ne va pas correspondre et tu trouves aucun autre mot. Tu as besoin absolument de ce mot-là et tu ne trouves aucun autre mot pour respecter ton rythme, parce qu'il y a des rythmes à respecter dans la poésie. Et donc, c'est autorisé. Et c'est ce qu'il fait ici, en fait. C'est comme s'il disait Yamalik quand il dit Yamal. Afwan, quand il dit Yamal. Yamal, Mal al-Hasab al-Muqaddam. Vous, les Bani Malik. Les Bani Malik, al-Hasab al-Muqaddam. Vous qui avez la notoriété, al-Hasab, c'est le comment on est vu, quelle place on a dans la société. Al-Hasab al-Muqaddam. Vous qui êtes privilégié dans votre place, vous n'êtes pas n'importe qui. Anshudu dhal qurba wa dhal tadammam. J'en appelle à la proximité, au lien de parenté qu'il y a entre moi et vous. Wa dhal tadammam. Et j'en appelle même s'il y en a qui ne m'aiment pas, parce qu'on n'a pas que des amis, même dans la famille. Donc il dit, j'en appelle même à ceux qui me blâment. Wa dhal tadammam. أنشد ذا القربى وذا التذمم من كان ذا رحم ومن لم يرحم. Celui qui fait preuve de clémence et celui qui ne veut pas faire preuve de clémence. J'en appelle à tout le monde parmi vous. Parce que s'il avait dit que c'est les gens proches ou les gens qui font preuve de clémence, ils vont dire, de toute façon, toi, on ne t'aime pas. Quand est-ce que... Donc, on n'est pas concerné par ton affaire. Et là, c'est pour leur dire, tout le monde est concerné. Je vous parle à tous, même aux ennemis parmi votre tribu. J'en appelle à vous tous. Al-hilfa wasat al-balad al-muharram. J'en appelle à vous pour faire un hilf, un pacte, une alliance. Où ça? Au milieu de la Terre Sainte, c'est-à-dire la Mecque. Venez vous allier à nous pour cette bataille, pour cette vengeance. Rinda hatim al-ka'bat al-mu'attam. À quel endroit précisément? À l'endroit de Hatim al-Ka'ba al-Mu'azzam. Hatim, ça veut dire quoi en arabe? C'est quelque chose qui est détruit. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est détruit? Parce que si vous vous rappelez, on avait déjà expliqué la reconstruction de la Ka'ba. À l'origine, la Ka'ba. Aujourd'hui, comment elle est la Ka'ba? C'est une forme de carré, un cube, c'est un carré. Mais à l'origine, avant la reconstruction, elle était sous forme de rectangle. En fait, là où il y a l'arc qu'on appelle Hijr Ismaïl, la Kaaba s'arrêtait là en vérité. Et les idolâtres de l'époque, quand ils se sont alliés pour reconstruire la Kaaba, ils ont dit que c'était un endroit saint. Et toute richesse qui provient de quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas acceptable moralement, ne doit pas participer à financer la reconstruction de la Kaaba. Et donc tous les grands notables, tous les grands riches, ils se sont réunis, ils ont mis la main à la poche pour reconstruire la Kaaba, sauf que la condition, c'était que chacun mette de l'argent qu'ils avaient, mais entre guillemets l'argent halal, même si pour eux, il n'y avait pas halal et haram, mais l'argent qui est propre. Sauf qu'ils étaient très riches, mais très, très pauvres en halal. Donc ils ont mis tout ce qu'ils avaient en halal, et c'était juste assez pour faire la taille qu'on voit actuellement. Et ils ne pouvaient pas terminer. Donc ils ont dit, tant pis, on va faire une autre forme qu'avant. Et donc il y a une partie qu'on appelle Hatim al-Ka'ba. En tout cas, les Arabes l'appelaient Hatim al-Ka'ba, la partie détruite et qui n'a jamais été reconstruite. D'ailleurs, après la mort du professeur Hassan, certains se sont posé la question. Et même un calife a voulu reconstruire cette partie. Et l'imam Malik, rahimahullah, a émis une fatwa dans laquelle il a recommandé, ou en tout cas plutôt déconseillé, à ce calife de ne rien faire qui va dans ce sens. Pourquoi? Il a dit parce que d'abord le prophète sallam aurait pu le faire et il ne l'a pas fait. Certes, le prophète Ibrahim, alayhi salam, avec le prophète Ismaïl, l'ont construit sous une forme rectangulaire. Mais le prophète sallam aurait pu, entre guillemets, corriger ce qui n'avait pas été fait par les idolâtres, et il ne l'a pas fait. Et il dit la deuxième raison, si tu te permets de faire ça, tu vas ouvrir une porte qui ne sera probablement jamais refermée jusqu'au jour du jugement dernier, et tu en seras responsable. Peut-être qu'à chaque fois qu'un amir, qu'un calife va venir après toi, il va avoir une idée pour la Kaaba, et il va en faire quelque chose comme il veut. Et heureusement que l'imam Malik, rahimahullah, a émis cette fatwa, parce que ceux actuellement qui construisent des tours gigantesques autour de la Kaaba, ils se seraient très probablement permis de changer totalement la Kaaba. Mais, alhamdoulilah, il y a le cadenas qui a été mis par l'imam Malik, rahimahullah, stop. Attention, c'est une ligne rouge que vous allez franchir et vous allez mettre en place une sunna, une mauvaise sunna. Toi, d'accord, c'est parce que tu veux le mettre dans sa superficie d'origine, sur son format d'origine. Et les autres qui suivront après toi, ils vont dire, ouais, il l'a fait, les savants, ils n'ont pas interdit, donc on peut le faire. Ne touchez pas la Kaaba, laissez-la comme elle est. Non. Tout ça pour dire, on parlait de quoi ? On parlait du poète Musafir ibn Abdimanat qui dit dans son dernier rime, faisons un pacte, al-hilf wasat al-balad al-muharram, au milieu de la Terre Sainte, donc à la Mecque, عند حطيم الكعبة المعظم au niveau de حجر إسماعيل, au niveau de l'endroit détruit, يعني qui n'a jamais été reconstruit. نعم. على كل حال, ça c'était juste pour donner un exemple des poésies qui vont être utilisées. Parmi les autres préparations qu'il y a, c'est que certains vont donner de l'argent à des personnes précisément, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler à notre époque des snipers. Donc ils vont organiser les attaques, mais ils vont aussi organiser certaines personnes. Toi, tu te posteras où tu veux, mais ce que je veux de toi, c'est toi, tu n'auras qu'une mission, c'est tuer un tel parmi les musulmans. Et donc ils vont mettre à prix la tête de plusieurs personnes, dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, nous, l'histoire la plus connue, c'est Hamza ibn Abdel Muttalib, radiyallahu anhu, puisqu'il va tomber en martyr dans la bataille d'Uhud, comme chacun sait, de cette façon-là. C'est Wahshi qui va être payé par qui ? Par Tu'aymatu ibn Adi. Hein ? Contrairement à ce qu'on peut voir dans le film Kunyur Jisala, on a l'impression que c'est la femme d'Abu Sufyan, Hindou bint Utba, qui le paye et qui lui demande. Non, ça c'est faux. Les historiens nous disent que c'est Tu'aymatu ibn Adi et qui lui a dit « Mon oncle, Afwan Jubayr ibn Mut'aym, il va dire mon oncle. » Tu'aymatu ibn Adi, il a été tué par Hamza à Badr. En échange de ta liberté et en échange de ta richesse, je ferai de toi un homme libre, tu ne seras plus esclave et tu seras riche en plus. Tu ne devras pas tout recommencer à zéro. Tu vas gagner ta liberté et d'un coup, tu seras riche. Mais en échange de ça, je te demande une seule chose, c'est tu tues Hamza pendant la bataille de Uhud. Et il était connu, Wahshi, pour ne rater ses tirs de lance, puisqu'il était d'origine abyssinienne, donc il savait très bien manier le tir à la lance, il ne ratait ses tirs que très très rarement. Il fallait vraiment que ça ne va pas ce jour-là pour qu'il le rate. Mais sinon, il ne ratait jamais ses tirs, quels que soient les obstacles en face de lui. Et il va y en avoir pendant la bataille de Uhud. Les gens se battent, il y a la poussière, et il doit se mettre loin pour ne pas être menacé, pour pouvoir prendre son temps tranquillement. Donc il ne doit même pas être dans le champ de bataille. Donc il a probablement beaucoup de gens entre lui et Hamza. Et pourtant, malgré ça, il va réussir à toucher sa cible, Hamza radiallahu anhu, du premier coup. À la coulée, ça on le verra dans la bataille de Uhud, les détails de cet événement. Donc, parmi les façons aussi de se préparer à la vengeance, ils vont demander aux femmes de jouer aussi un rôle. Et ils vont demander cette fois aux femmes, ou en tout cas à un groupe de femmes, de les accompagner pour chantonner des poèmes. On reviendra sur ces poèmes. Pour que en cas de défaite, il n'y ait pas de retraite. Ils disent que c'est soit on gagne, soit on reste sur le champ de bataille, on va être tué sur le champ de bataille. Mais il n'y aura pas de retraite comme à Badr, il y a eu des fuites. Les gens, ils ont fui. Et donc, il faut pour ça que les femmes viennent. Parce que si les femmes, elles viennent, bah, pour les Arabes, en tout cas de l'époque, aujourd'hui ça ne marche plus ça. La honte, yani, c'est ça que ça veut dire. Si je perds la honte, il y a ma femme qui me regarde. Et si je m'enfuis la honte, qu'est-ce qu'elle va me dire ma femme toute ma vie ? Tu n'es qu'un vaurien. Je t'ai vu à la bataille de Uhud, comment t'as fait ? Donc ils prennent leur femme avec eux. Et les premiers à prendre leur femme, c'est les chefs, les notables. Ils veulent montrer l'exemple. Ça veut dire qu'il y a un risque pour que leur femme perde la vie. Et en même temps, c'est les premiers à montrer que ils sont prêts à aller sur le champ de bataille même avec leur femme, quelque chose qui ne se faisait pas forcément chez les Arabes. C'est pour montrer vraiment qu'ils veulent cette vengeance. Donc Abu Sufyan, qui est le chef de la Mecque à l'époque, il va venir avec sa femme, Hind bint Utba, qui va être d'ailleurs celle qui va gérer le groupe des femmes, radiyallahu anha, puisque plus tard elle se convertira à l'islam, elle va être la chef des femmes. Vous avez aussi le fils d'Abu Jahl, Ikrima ibn Abi Jahl. Qu'est-ce qu'il va ? Il va venir lui aussi avec sa femme. C'est qui sa femme ? C'est sa cousine, Ummu Hakim, bintul Harith ibn Hisham ibn al-Mughira. Et d'ailleurs, cette femme, qui est donc l'épouse de Ikrima ibn Abi Jahl, et qui est en même temps la cousine d'Abu Jahl, son père, on a dit comment elle s'appelle ? Ummu Hakim, bintul Harith ibn Hisham ibn al-Mughira. Ça veut dire son père, il s'appelle Harith ibn Hisham ibn al-Mughira. Son père est encore vivant à l'époque. Et il vient lui aussi à la bataille de Badr. C'est un des notables de la Mecque. Et lui aussi, il vient avec son épouse. Et son épouse, c'est qui ? C'est Fatimatu bintul Walid ibn al-Mughira. C'est qui cet homme, Harith ibn Hisham, qui vient avec sa femme Fatimatu bintul Walid ibn al-Mughira ? C'est le frère d'Abu Jahl. Non. Parce qu'on a dit son mari avec des cousins. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Si vous ne m'avez pas suivi, restez là où vous êtes, on va revenir après. Pour ceux qui m'ont suivi, continuez à courir derrière moi. À la kulli hal, on a aussi Safwan ibn Umayya, qui vient avec son épouse aussi. Mais son épouse, c'est qui ? C'est Barza, bintu Mas'ud ibn Amr ibn Umayr al-Thaqafiyya. Son père, lui aussi, elle aussi est encore vivant, et d'ailleurs, il se convertira à l'islam, radiyallahu anhu. Et enfin, parmi les exemples qu'on peut citer, les grands chefs de l'époque, il y a aussi le diplomate dont on a parlé tout à l'heure, Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, puisqu'il se convertira plus tard à l'islam. Amr ibn al-As, il vient avec son épouse, Raïta bint Munabbih ibn al-Hajjaj. Et si vous vous rappelez, Munabbih ibn al-Hajjaj faisait partie des grands chefs de la Mecque qui a été tué lui aussi pendant la bataille de Badr. Donc elle est là aussi pour venger son père. Elle vient avec son mari pour montrer l'exemple et en même temps, elle a perdu son père. Hind, qui vient avec son mari Abu Sufyan, elle a perdu son père, elle a perdu son frère, elle a perdu son oncle, elle a perdu un cousin, et j'en passe. Ala kulli hal, tous ces préparatifs se font et les Quraysh décident de sortir de la ville de la Mecque avec ces 3000 hommes qui sont composés de 1000 Mécois et 2000 parmi les autres sur lesquels on va revenir. Et qui est-ce qui va informer le professeur sallam? On l'a dit tout à l'heure, c'est l'oncle du professeur sallam, l'Abbas ibn Abd al-Muttalib, radiyallahu anhu. Il envoie une lettre, secrètement. Il paye une personne, un voyageur, et lui dit, tu prends cette lettre et tu te rends à Médine le plus vite possible. Tu fais ce que tu peux pour arriver le plus vite possible. L'armée, elle part. Au moment où l'Abbas veut informer, c'est au moment où l'armée elle part. Il ne peut pas informer tant que l'armée n'est pas partie. Parce qu'il faut absolument que le professeur Hassan sache dans combien de temps à peu près l'armée arrive. Donc, s'il envoie trop tôt, s'il envoie trop tard, ce n'est pas bon. Donc il envoie ce messager en même temps que l'armée elle part. L'armée elle est partie, donc c'est bon, elle est partie. Mais comme ils sont 3000 hommes, ça met du temps à bouger 3000 hommes. Alors qu'un cavalier tout seul, il va réussir en 3 jours à traverser ces 500 et quelques kilomètres qui le séparent de Médine. Et quand il va arriver, il arrive d'abord à Quba et on lui dit le professeur Hassan est ici à Quba. Il cherche le professeur Hassan et on lui dit il est à Quba. Puisque tous les samedis, le professeur Hassan avait l'habitude d'aller à Quba. Il arrive un samedi. Il arrive à Quba, il va voir le professeur Salam et lui dit « J'ai une lettre dans laquelle une information secrète de la part de ton oncle, l'Abbas ibn Abd al-Muttalib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va appeler son compagnon, un de ses scribes, qui sait lire, Ubay ibn Ka'b, radiallahu anhu. Il va s'éloigner, s'isoler déjà, puisqu'il entend que c'est une lettre secrète. Et il sait qu'il y a des hypocrites, il y a le moyen. Et Ubay ibn Ka'b lui lit et il lui dit, il lui donne toutes les informations. Et il faut se mettre à la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est sans aucun doute le meilleur des hommes, le meilleur des prophètes, un prophète, mais qui reste aussi un homme. Et qui est imprégné de sentiments humains. Sauf qu'il a été élu parce qu'il est le meilleur des hommes et le meilleur des prophètes. Mais à ce moment-là, quel effet ça doit faire cette lettre dans laquelle l'Abbas ibn Abd al-Muttalib lui dit « Prépare-toi une armée de 3000 hommes, de gens enragés jusqu'aux dents, armés jusqu'aux dents, se dirigent vers toi et ils ont promis, puisqu'à la base, ils ne voulaient pas se battre à l'extérieur de Médine, les Quraysh veulent raser la ville de Médine. C'est ça le plan. Ne faire aucun survivant dans la ville de Médine. Les combattants, les civils, c'est ça le plan. Mais le professeur Hassan va réussir à détourner ce plan, comme on va le voir plus tard. Donc, ils viennent pour ça. Ils sont 3000 combattants, dont 2000 Ahabish. On les appelait les Ahabish. Il y a 1000 Quraysh. Les Quraysh, on a l'habitude. On les a vus à Badr. On sait de quoi ils sont capables, de pas grand-chose. Et c'est la réalité. Il y a une chose qu'on ne doit pas oublier, il faut se mettre au contexte de l'époque. Les tribus arabes savent faire la guerre, sauf la tribu des Quraysh. C'était connu à l'époque. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient occupés par le commerce, pendant que les autres, ils étaient occupés par se battre, s'entretuer. Et d'ailleurs, ça leur a causé beaucoup de tort, et c'est pour ça qu'ils ont, je ne sais pas si on peut comparer ça à la milice de Poutine qu'on appelle Wagner, c'est une sorte de milice qu'on appelle Ahabish. Et l'Ahabish, c'est des gens qui savent très bien se battre et qui ne font que ça. Et qui sont alliés et payés par les Quraysh dans les pires des situations pour venir les aider. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, cette fois, ils ne vont pas faire les choses n'importe comment. Et ce qui peut expliquer, d'une certaine manière en partie, leur défaite à Badr, mais leur victoire aussi, je dis en partie parce qu'il y a plein d'autres raisons, plein d'autres facteurs. Mais parmi les facteurs, c'est qu'ils vont avoir, à Badr, il ne faut pas appel aux Ahabish, alors qu'à Uhud, ils font appel aux Ahabish. Mais quand on dit l'Ahabish, c'est qu'on a besoin de comprendre qui sont ces gens-là, d'où ils viennent, parce que ça date, le pacte qu'ils ont avec les Quraysh, ce n'est pas un pacte qui vient d'arriver, c'est un pacte qu'ils s'héritent de père en fils, depuis quelques siècles. Et donc c'est intéressant et important de faire une parenthèse sur qui sont les Ahabish et comment ils font pour se retrouver là et composer deux tiers de l'armée des idolâtres à Uhud. Qui sont les Ahabish, ça c'est ce qu'on verra la fois prochaine. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum pour votre attention. Subhanakallahu wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.